Nous allons lire deux passages dans Job. Premièrement dans Job 13, les versets 15 à 24. Job 13, verset 15. « Voici, qu'il me tue, j'espérerai en lui. Seulement je défendrai mes voies devant lui. Ce sera même une délivrance, qu'un impie n'entre pas devant sa face. Écoutez, écoutez mon discours, et que ma déclaration pénètre dans vos oreilles. Voyez, j'exposerai ma juste cause, et je sais que je serai justifié. Qui est celui qui contestera avec moi? Car maintenant, si je me taisais, j'expirerai. Seulement, ne fais pas deux choses à mon égard, alors je ne me cacherai pas loin de ta face. Éloigne ta main de dessus moi, et que ta terreur ne me trouble pas. Et appelle, et moi je répondrai, ou bien je parlerai, et toi, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître ma transgression et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face et me tiens-tu pour ton ennemi ? Puis au chapitre 14, les versets 7 à 15. Car il y a de l'espoir pour un arbre. S'il est coupé, il repoussera encore, et ses rejetons ne cesseront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, et si son tronc meurt dans la poussière, à l'odeur de l'eau il poussera et fera des branches comme un jeune plomb. Mais l'homme meurt et gît là. L'homme expire, et où est-il ? Les eaux sont vendues lac, et la rivière tarie et sèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève pas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, il ne s'éveille pas et il ne se réveille pas de leur sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le Shéol, me tenir caché jusqu'à ce que ta colère se détourne, me fixer un temps arrêté et puis te souvenir de moi. Si un homme meurt, vivra-t-il ? Tous les jours de ma détresse, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appellerais et moi je te répondrai. Ton désir serait tourné vers l'œuvre de tes mains.
Est-ce que quelqu'un ici souffre ce soir? Dans le corps, dans l'âme, dans la famille? On vit dans un monde qui souffre, puis j'ai pas l'impression que dans les années qui viennent, en attendant le retour du Seigneur, que les choses vont s'améliorer. Nous souffrons. Je voudrais sauter le début du livre de Job et aller directement dans les versets 13 et 14, dans les chapitres 13 et 14, pour proposer des solutions à la souffrance. Et je vais traiter ce soir sur quatre points et faire une petite introduction et regarder le réconfort de sa présence, puis deuxièmement le défi de la gloire et troisièmement l'espérance de la résurrection et tirer une conclusion. En introduction, vous savez que Job souffrait. Il souffrait moralement, il a perdu ses enfants. J'ai eu le privilège pendant de longues années de servir le Seigneur dans une assemblée de plusieurs centaines de personnes. Et je pense que la chose la plus pénible que j'ai faite dans ma vie, c'était de faire les services pour les enfants. Je n'oublierai jamais un jeune homme de 17 ans qui s'est pendu. Et la famille m'appelait, il ne savait pas quoi faire, puis je suis allé dans le garde-robe le voir pendu, puis consoler la famille, puis qu'est-ce qu'on dit à un service de funérailles devant une famille dont l'enfant vient de se pendre? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à la famille d'un enfant qui vient de se faire écraser par un autobus? Qu'est-ce qu'on dit à Job qui a perdu tous ses enfants? Comme ça, il souffre. Job a souffert dans son corps. Il est très mal, très malade. Puis, souffrir là encore, c'est difficile. Et Job a souffert parce que ses amis, bien, je ne sais pas si on dit ça ici, mais au Québec, on dirait que avec des amis comme les amis de Job, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est donc difficile d'avoir des amis comme ça. Puis non seulement que ses amis qui sont venus pour le réconforter, puis l'ont écrasé, puis ils ont essayé de le détruire, je pense, ils ne comprenaient pas. Ne pas se sentir compris lorsqu'on souffre, c'est encore une souffrance. Et voilà son épouse, celle qui devait, plus que n'importe qui, le consoler, lui dit « Maudit Dieu, puis meurt. Hein? » Job souffre. Mais ici, en remettant ce point, le réconfort de sa présence, Job fait des progrès. J'aimerais ce soir lire tout le livre de Job avec vous. Hein? J'ai demandé à Cyril de lire pour vous épargner ma voix pendant la lecture de la parole de Dieu au moins. Mais le livre de Job est long, on ne pourrait pas tout le lire. Mais si vous lisez le livre de Job, vous voyez que Job exige des réponses à Dieu. Job veut recevoir des explications. Dieu, pourquoi je souffre? Puis je vous dirais que on est comme ça. On veut savoir pourquoi. On exige des réponses à Dieu, puis on n'est pas content de Dieu, parce que ce n'est pas juste que je souffre. Puis on veut des réponses, puis Job demande des réponses. Mais là, on arrive au chapitre 13, à un point tournant dans la vie de Job ici, où Job arrête d'insister pour recevoir des explications. Et maintenant, il dit, « Je suis prêt à renoncer à recevoir une explication si seulement je savais, Dieu, que tu étais avec moi et que tu marchais avec moi, je pourrais passer à travers. » Parce que la solitude, c'est un des pires aspects de la souffrance. Il y a nommé Joseph Bailey qui a perdu 3 fils, l'un après l'autre. C'était un homme de Dieu. Et dans son livre, en anglais, c'est « A View from a Hearse », la vie vue d'une corbeillarde. Est-ce qu'on dit ça ici, corbeillarde?
Oui, oui.
Ou est-ce que quelqu'un est mort en même temps, c'est ça? Il écrit ceci. Je pense que c'est intéressant qu'est-ce qu'il dit. Voici un homme qui souffre. Son 3e fils vient de mourir dans un accident d'auto. Il dit « J'étais assis, déchiré par le deuil. » Quelqu'un est venu me voir et il m'a parlé des voies de Dieu dans ma vie, de l'espérance au-delà du tombeau. Il me dit des choses vraies, puis j'avais envie qu'il parte au plus vite. Un autre est venu et il s'est assis à côté de moi pendant 1 heure, presque sans parler. Il m'a écouté, il a simplement répondu à mes questions. Il a pris tout simplement et il est parti. J'étais triste de le voir partir. Et dans cette histoire, on voit que la souffrance n'est pas un problème intellectuel. Vous savez que si mon ami souffre, si quelqu'un que je connais souffre, c'est un problème intellectuel. Hein? Mais si moi je souffre, ce n'est plus un problème intellectuel. La souffrance, c'est un voyage. C'est un voyage. Et disons que vous traversez une haute montagne. Maintenant, au Québec, on n'a pas des hautes montagnes. Hein? On a des petites côtes. Ici, vous avez des montagnes. Mais disons qu'on veut passer dans les Alpes en plein hiver et pendant une tempête en plus, avec la neige. Qu'est-ce qui est plus important? D'avoir une carte ou avoir la force et la persévérance pour passer à travers. Puis vous savez que si nous avons une carte, puis on n'a pas la force et la persévérance, mais on risque de ne pas passer, on ne peut pas. C'est beau avoir une carte. Il faut avoir la force pour traverser. Mon ami Joseph Bailey, qui a perdu ses 3 fils, il n'avait pas besoin d'une carte. Il avait besoin de présence de quelqu'un auprès de lui. Il avait besoin des gens qui étaient pour lui puis avec lui. Puis si jamais vous voulez aider quelqu'un qui souffre de la perte d'un bien-aimé, ou que vous visitez quelqu'un à l'hôpital qui souffre, une des choses qu'on doit apprendre, c'est de se taire. Puis d'écouter. La majorité de nous avons tendance à trop parler dans ces circonstances-là. Tim Keller, un de mes écrivains préférés, il raconte une fête surprise qui était donnée par les gens d'une église un peu plus loin où il avait œuvré pendant des années auparavant. Puis il était frappé par les remarques qu'ils ont faites. Les personnes qui ont apprécié son ministère parmi eux ont fait des remarques. Il y a une personne qui a dit, « Tu es venu au salon funéraire quand mon père est décédé. Tu es venu au moment où mon père est décédé. Tu es venu. » Puis un autre a dit, « Quand mon fils a été arrêté par la police, tu es venu nous rencontrer en prison. » Puis Tim Keller, qui est un excellent prédicateur, personne ne parlait de ses sermons. Et pourtant, il avait œuvré dans cette église pendant 15 ans, puis on vient pour lui dire combien qu'on apprécie, mais ce n'était pas pour ses sermons. Et parce que les personnes qui souffrent n'ont pas nécessairement besoin d'informations ou d'une carte, ils ont besoin de quelqu'un pour eux et quelqu'un avec eux, quelqu'un à côté d'eux. Un de mes mots préférés dans le Nouveau Testament, dans la langue grecque, c'est le mot « parakletos », qui traduit « celui qui ». Mais c'est traduit « avocat » dans 1 Jean. Quand Jésus dit que quelqu'un va venir à côté de son peuple pour les réconforter du Saint-Esprit, il appelle le parakletos, celui qui est appelé à côté pour aider. Puis quand on souffre, on a besoin de quelqu'un pour être avec nous. Maintenant, pour revenir à notre texte, Job n'avait pas besoin d'une réponse. Et voilà, les amis, je sais qu'il y a une personne ici ce soir qui souffre. Je sais qu'il y en a plusieurs qui souffrent, pour toutes sortes de raisons. Et je sais parce que moi, je suis comme ça, je suis un peu un justicier, et je veux voir la justice de mes amis, puis je veux voir la justice dans la vie, puis je veux surtout avoir la justice de Dieu. Puis quand quelque chose arrive, puis je trouve pas ça juste, je veux avoir une réponse. Puis j'ai compris, j'ai seulement 66 ans, je commence à comprendre que ça sert à rien. Cela n'aide pas. Chercher une réponse pour les raisons que je cherche, ce n'est pas la réponse. Ça aide pas. Puis Job, si ça fait 12 ou 10 chapitres maintenant, une douzaine de chapitres, qu'il cherche une réponse, il commence à comprendre qu'il n'a pas besoin de savoir pourquoi il souffre. Il a besoin de savoir que le Seigneur est avec lui. Il a besoin de puissance, de force, de savoir que Dieu n'est pas son ennemi, que Dieu est avec lui, qu'il marche avec lui. Il a besoin de la présence de Dieu. Il avait besoin, Job, c'est peut-être le plus ancien des livres de la Bible. Peut-être que le livre de Job a été écrit avant le livre de Genèse. On n'est pas certain, mais peut-être. Et dans ce très ancien livre, où Job n'avait peut-être pas tous la connaissance que nous avons, nous, il avait besoin quasiment d'un miracle pour connaître la présence de Dieu dans sa vie. Il avait besoin d'une espèce de, je ne sais pas, pour savoir que Dieu était avec lui. Mais nous, nous n'avons pas besoin de ce miracle-là. Nous n'avons pas besoin d'une vision quelconque. Parce que c'est seulement le christianisme qui nous enseigne que lorsque nous souffrons, Dieu ne nous donne pas un sermon. De toute façon, quand on souffre, on n'est pas capable de comprendre des sermons. Mais Dieu est venu lui-même. Hein? La différence entre le christianisme, entre la foi que nous avons comme chrétiens, c'est que devant notre souffrance, Dieu est venu dans la deuxième personne de l'éternité. Jésus-Christ est venu lui-même dans ce monde. Il est entré dans ce monde de souffrance. Et si on pense qu'on souffre aujourd'hui dans le monde en Palestine, lorsque Jésus a vécu sur la terre, dans la terre promise, sous l'Empire romain, avec toutes les maladies, puis toutes les difficultés politiques et économiques, il y avait beaucoup de souffrance. Puis Jésus-Christ, Dieu-même, est entré dans ce monde de souffrance. Puis Jésus a été seul, puis il a été trahi, puis il a été torturé, puis il a souffert physiquement. Il a été assassiné, il a été victime d'injustices politiques et sociales. Si vous pensez que vous souffrez, mais Jésus a souffert autant que nous, sans doute plus que nous. Puis, en d'autres mots, Jésus ne nous donne pas un sermon, il est venu. Puis, il nous a donné à nous ce qu'il fallait à Job dans sa souffrance. Et moi, j'ai compris encore dernièrement que peut-être que je ne connaîtrai pas les raisons de ma souffrance, de mes souffrances, mais je peux au moins éliminer une raison. Si je souffre, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas. Puis je suis capable, moi, quand je souffre, de mettre en doute l'amour de Dieu pour moi. Probablement dans cette salle où nous sommes peut-être 40, 50 personnes, je ne sais pas, je suis le seul ici qui a douté de l'amour de Dieu pour moi. Ça vous est jamais arrivé, vous. Mais moi, ça m'arrive. Puis, mais je peux éliminer cela. Je vois l'œuvre de Jésus sur la croix. Je vois sa vie sur la terre, je vois sa venue vers nous, puis je sais que Dieu m'aime. Sa présence, sa présence. Maintenant, deuxième point, le défi de la gloire. Dans Job 14, dans le passage que Cyril nous a lu tantôt, Job commence avec une espèce de métaphore. Puis il le prend négativement, cette métaphore-là, mais il y a encore une leçon pour nous. Job dit, il est en train de dire ici, je ne sais pas comment vous le dites ici, mais au Québec, ceux qui veulent prétendre, qui veulent convaincre quelqu'un, qui sont athées, ils vont dire 6 pieds sous la terre, puis ça finit là. Pas de résurrection. Puis Job vit en époque dans la Bible où peut-être la résurrection était moins comprise. La révélation de la parole de Dieu est progressive. Et on apprend des choses en Matthieu qu'on ne comprenait pas nécessairement en Exode. C'est la révélation de Dieu va en progression. Il n'y a pas d'erreur dans l'Ancien Testament, mais la révélation est peut-être moins complète. Alors, il y avait peut-être des choses que Job ne comprenait pas. Puis Job dit, il y a de l'espérance pour un arbre. Parce qu'un arbre peut revivre. Mon épouse et moi, nous passons du temps au Nouveau-Brunswick maintenant. C'est une province du Canada. Et la famille a acheté une maison où ma belle-mère peut demeurer pendant quelques années de transition. Et c'est une maison, une magnifique maison, on est béni, mais le cour en arrière, le jardin en arrière était négligé. La maison était vide un certain nombre d'années, un certain nombre de mois plutôt. Puis, j'ai coupé le gazon. Je ne sais pas si vous dites comme ça ici, mais j'ai coupé le gazon. Puis, il y avait quelques arbres qui avaient commencé à pousser rapidement. La saison de croissance chez nous n'est pas longue, mais les arbres pousse assez rapidement. Puis il y avait un érable qui était haut comme ça, plein au milieu. Puis les feuilles étaient jaunâtres, seulement une dizaine de feuilles vertes. Puis c'était crache, puis c'était pas beau. Puis mon épouse a dit, coupe ça, coupe ça. Alors moi, j'étais occupé à d'autres choses, en déménager. Puis mon beau-frère est parti dehors, sorti dehors avec un couteau, puis il a coupé toutes les branches, mais il n'a pas réussi à couper l'arbre à la base. Alors, il restait une tige à peu près grande comme ça, juste un morceau de bois. Puis, moi, je passe une semaine au Nouveau-Brunswick, puis 3 semaines au Québec, alors je suis retourné au Québec. Puis, je suis revenu, puis il y a eu de la pluie à tous les jours, j'ai pas pu sortir. Alors, 2 mois après, je reviens pour le couper, je sors dehors, puis c'était magnifique. Rempli de feuilles. L'arbre a repris vie. Et j'ai pas eu de cœur à couper. D'ailleurs, c'était beaucoup plus beau que c'était quand mon frère avait coupé les branches. C'est un thème important ici. La souffrance, c'est comme l'émondage. Puis qui suis-je, moi, Québécois, pour venir en Suisse vous parler de l'émondage? Vous avez vos vignes ici. Nous autres, nous, on n'a pas ça. On a quelques vignes, mais pas vraiment beaucoup. Et vous savez que ceux qui travaillent dans les vignes doivent émonder. Parce que si on laisse aller un arbre, un fruitier ou une vigne, il n'y aura pas de fruits et ça ne sera pas beau à voir. Ça, vous le savez. Et il faut couper, il faut émonder les branches et les feuilles. Je suis un homme qui aime la pêche. Quand je veux vraiment prendre du temps à moi, puis me reposer, c'est la pêche. Puis au Nouveau-Brunswick, dans le pays de mon épouse, on fait la pêche dans des petits ruisseaux qui sont larges comme ça, puis profonds comme ça. Puis on marche dans une journée, une dizaine de kilomètres parfois, puis on laisse aller la ligne de pêche avant nous, puis on prend une centaine de truites, 2 personnes, puis on arrête, puis on fait un petit feu, puis on mange nos poissons, puis on retourne à la maison. Ça, c'est pour moi, ça, c'est vivre. Ça, c'est vivre. Une fois, il y a un ours qui a voulu avoir mes poissons, puis j'ai gagné. Dans cette partie de Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick plutôt, c'est intéressant que c'est des anciennes fermes. En 1783, les États-Unis ont décidé qu'ils ne voulaient plus avoir le roi George de l'Angleterre comme leur roi. qui se sont révoltés contre l'autorité que Dieu avait mise sur leur pays, et ils sont devenus un pays indépendant. Et beaucoup d'Américains sont venus au Canada, les loyalistes qu'on les appelle, puis ils ont fondé tous des villages, surtout au Nouveau-Brunswick, dans le sud du Québec aussi. Et le gouvernement leur a donné, chaque famille qui venait des États-Unis, parce qu'ils étaient loyaux à Sa Majesté George, une terre qu'ils devaient défricher, couper les arbres, faire une ferme. Et certaines de ces fermes-là avaient un excellent sol, puis d'autres moins bons. Et après deux générations, certaines de ces terres-là sont devenues une forêt, et on les a laissées aller. Et c'est très intéressant qu'on peut marcher dans ces forêts-là, comme je fais souvent chaque année, puis tout d'un coup, au milieu d'une forêt, on voit des pommiers. Puis on est surpris de voir des centaines de pommiers tout autour de nous. Puis je peux vous dire que je connais ces places-là parce que mes deux beaux-frères, c'est des chasseurs. Ils chassent la cerf, vous dites, le chevreuil. Et la meilleure place pour trouver ces animaux-là, c'est où il y a des pommes. Hein? Ils aiment beaucoup les pommes. Mais c'est intéressant de voir ces pommiers-là. Certaines ont 150 ans, une centaine d'années. Puis ça doit faire une centaine d'années que personne ne les a taillées. Les pommes sont gros comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Puis les arbres sont tellement laids et tellement mal formés qu'il faut vraiment regarder pour savoir si c'est un pommier. Ils n'ont pas été taillés. Une fruitière laissée à elle-même ne produit pas de fruits. C'est épeurant de les voir. Lorsqu'on émande des pommiers, lorsqu'on émande les vignes, moi j'ai travaillé sur une ferme quand j'étais jeune homme, je les ai vus couper les fruitiers. Puis je me suis dit, ils vont les tuer, là. Ils vont tuer l'arbre. Ils lâchent dedans, ils ne coupent pas. Mon épouse fait pousser des tomates. Puis, quelque part, vers le mois de juin, elle vient, puis elle coupe deux branches sur trois, sur la plante. Elle émonde. Mais si on émonde un arbre ou une plante, il deviendra beau, puis il produira des fruits. Et de la même façon, dans notre vie, la souffrance produit la gloire. Ça, c'est un principe biblique extrêmement important. La souffrance produit la gloire. Regardez Romains 8, 18. J'estime que les, puis je le cite dans la seconde, pardonnez-moi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances que nous expérimentons, c'est rien. On ne peut pas même les comparer à la gloire qui va venir. Dans 2 Corinthiens 4, Paul va encore plus loin, puis sous l'inspiration du Saint-Esprit, il nous dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Nos afflictions, nos souffrances du moment présent, ils produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une poids éternelle de gloire. La souffrance produit la gloire. Et c'est comme l'émondage. Je ne sais pas si l'arbre souffre lorsqu'on lui coupe ses branches, mais ça produit du fruit. Et la souffrance chez nous produit la gloire. En effet, si nous ne souffrons pas, il n'y aura pas de poids. Il n'y aura pas de poids. Depuis des années, je travaille pour former des prédicateurs. Je prends des jeunes hommes, puis j'ai 5 jeunes hommes en ce moment qui suivent un cours avec moi une fois par mois et qui prêchent régulièrement, puis je les écoute, puis j'essaie de les aider à développer dans leurs dons. Puis en parlant avec mon épouse, il y a une chose qui est évidente. Je pense à un jeune homme que je connais bien. Il est doué. Il a une voix qui me rend jaloux. J'aimerais ça avoir une voix comme ça. Il est logique, il a quelque chose à dire, il est profond. Mais il n'a pas d'autorité spirituelle. Je ne sais pas c'est quoi. Il parle, puis c'est beau, puis il n'y a rien à critiquer, mais ça passe par-dessus la tête de tout le monde. Puis j'en parlais avec mon épouse, qui a plus de sagesse que moi. J'ose le dire, elle n'est pas ici. Si elle était ici, je ne le dirais pas. Hein? Mais mon épouse a dit, Doug, il n'a pas souffert encore. Il n'a pas souffert encore. Quand il va souffrir, on va voir un changement dans son ministère, dans son enseignement. Puis je pense que c'est vrai. Pas de souffrance, pas de poids. Dieu nous fait pousser des racines. Il nous émane pour que nous portions du fruit. Je ne suis pas un fermier, mais je sais que chez nous, au Québec, c'est pas nécessairement facile de faire pousser le gazon. Puis si on met trop d'engrais, on a du gazon qui est ça d'en haut, qu'il faut couper tous les trois jours, mais qui n'a pas de racines. Et s'il n'y a pas de racines, le moment qu'il y a une sécheresse, ça devient brune. Et il faut produire des racines. Puis, chers amis, n'oublions pas que même notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Il y a ce verset dans l'Épître aux Hébreux que je ne comprendrai jamais, peut-être au ciel. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Comment comprendre que Dieu, le Dieu omniscient, le Dieu qui sait tout, qu'il a pu apprendre quelque chose? C'est sûrement dans son humanité, mais il reste que si Jésus a dû apprendre la souffrance, nous devons accepter qu'il y ait des leçons dans la vie, et surtout dans la vie chrétienne, que nous n'apprendrons que par la souffrance. Puis ce n'est pas la méthode pédagogique, ce n'est pas ma méthode pédagogique préférée. Je ne sais pas si pour vous, c'est ça que vous aimez souffrir. Que quand vous souffrez, vous dites, « Oh, je suis content, là je vais apprendre encore une bonne leçon, merci Seigneur. » Je n'ai pas nécessairement cette attitude-là. Mais si mon Seigneur a dû souffrir, pourquoi je serais différent de lui? Il y a un troisième point, une troisième pensée qui donne l'espérance à Job, et c'est l'espérance de la résurrection. Et je vous dirais que c'est ici les versets les plus surprenants dans le livre de Job. Parce que Job nous dit, puis si on regarde ensemble le chapitre 14, il dit, les arbres peuvent revivre, mais pas les hommes. Regarde au verset 14 où Cyril nous a lu le passage. Au verset 7, Job 14, 7, « Car il y a de l'espoir pour un arbre. S'il est coupé, il repoussera encore. » Au verset 10, « Mais l'homme meurt et gît là. L'homme expire et où est-il? Les eaux s'en vont du lac et la rivière tarit et sèche. Ainsi, l'homme se couche et ne se relève pas. » Quel pessimisme! Quel manque d'espérance! Puis là, tout d'un coup, de quelque part jaillit l'espoir du néant dans le cœur de Job. Et il dit au verset 13, oh, si tu voulais me cacher dans le Sheol. Job qui en peut plus. Ses enfants sont morts, toutes ses possessions sont parties, il perd ses richesses. De l'homme le plus riche dans l'Orient, il est peut-être devenu l'homme le plus pauvre dans l'Orient, comme ça. Et ses amis tournent contre lui, puis sa femme perd presque la foi, on ne comprend pas. Puis là, Job dit, oh Seigneur, cache-moi dans le Sheol. Dans le tombe. Que je meure, Seigneur, puis cache-moi dans une tombe. Me tenir caché jusqu'à ce que ta colère se détourne. Cache-moi dans le tombe. Mais me fixer un temps arrêté, et puis tu vas te souvenir de moi. Verset 13, tu te souviendras de moi. Et là, il pose la question, si un homme meurt, revivra-t-il? Tous les jours de ma détresse, ce mot détresse est intéressant. J'ai vérifié toutes les versions en français que je possède, puis je ne sais pas s'il y en a que je ne possède pas. Et le seul qui le traduit comme faux, c'est une version messianique. C'est un mot qui veut dire dur labeur, un travail dur. C'est un mot qui parle d'un travail qu'on impose dans un pénitencier. Si vous voyagez aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, parfois vous voyez ce que les Américains appellent le chain gang. On voit des prisonniers qui sont dans une prison. On les laisse sortir le jour, toutes avec des chaînes sur les pieds puis sur les bras, pour nettoyer à côté des autoroutes. Puis on les voit marcher. Et peut-être vous avez vu des films ou des où on voit des personnes qui sont dans une prison aux États-Unis. On leur donne une grande masse. Puis on a fait casser des roches. pendant 14 ans de travail dur. Mais le sens, c'est le sens du mot ici. Job regarde sa vie, puis il dit, les jours de ma détresse, les jours de mon travail dur, de mon dur labeur, j'attendrai jusqu'à ce que mon état vienne de changer. Puis là, il dit au verset 15, tu m'appelleras. Je serai caché dans le Sheol, je serai caché dans la tombe, mais tu m'appelleras, et moi je te répondrai, ton désir sera tourné vers l'œuvre de tes mains. Un autre mot difficile à traduire. Ce mot désir est intense dans l'original. C'est une profonde émotion. C'est même utilisé dans l'hébreu pour parler de désir sexuel. C'est aussi intense que cela. Puis là, Job est en train de dire, Dieu, d'une façon qu'on ne peut pas nécessairement saisir, excusez-moi Claudine, vous allez avoir des difficultés à me suivre. Où est-ce que je suis rendu? Je suis rendu à la fin du 29, hein? 20-30. Job dit, tu sais que tu m'aimes et que cet amour que tu as dû et pour moi est tellement intense que tu ne me laisseras pas mort, tu vas m'appeler après que je serai mort. Puis, je peux te dire que les commentateurs n'aiment pas ce verset-là. Ceux qui sont le moindrement libéral vont dire qu'il n'y avait aucune compréhension de la résurrection 2000 ans avant Jésus-Christ. On ne comprenait pas cette vérité-là. Mais je m'excuse, mais Job le comprenait. Je ne sais pas comment qu'il comprenait. Probablement, c'était avant même que Genèse soit écrit, qu'il n'y avait pas encore la Bible, même pas un livre de la Bible entre ses mains, mais il connaissait son Dieu, puis il savait que Dieu l'aimait, puis il avait cette espérance de la résurrection. Je peux confirmer que des personnes qui vivaient à l'époque de Job avaient cette espérance-là. Lisez l'histoire d'Abraham avec Isaac, puis lisez Hébreux chapitre 11, et il est clair qu'Abraham avait une espérance de la résurrection. Alors Job aussi avait cette espérance-là. Dieu languira, et avec son amour profond, il va appeler Job. Il sait que ce Dieu de l'amour infini finira par l'appeler. Et j'ai écrit ceci, c'est une chose de savoir que Dieu est avec moi, mais c'est une toute autre chose de savoir que Dieu est avec moi, et pour toujours. Je suis en train de dire que peut-être la réponse à la souffrance, il faut se faire l'idée, il faut décider, comme Job, commence à comprendre ici que la réponse à notre souffrance, nous ne l'aurons probablement pas ici sur la terre. Puis Job commence à comprendre, c'est lors de la résurrection que je vais comprendre. C'est une chose de savoir que Dieu est avec moi, c'est une autre chose de savoir que Dieu est avec moi pour toujours. J'ai le privilège d'avoir 5 petits-enfants. J'ai une petite fille qui a 7 ans, qui est très profonde. Elle me surprend continuellement. Puis là, elle, pour une raison que je ne comprends pas, elle commence à penser à la mort. J'étais à l'hôpital 4 fois cette année avec des problèmes de cœur qui ont été résolus, je pense. Mais elle est venue me voir à l'hôpital puis elle m'a demandé, est-ce que tu vas mourir, Grampy? Est-ce que tu vas mourir? Puis, qu'est-ce que je vais faire quand tu ne seras pas là? Qui va être mon grand-père? Posez toutes sortes de questions comme cela. Puis, moi, j'ai dit, les petits-enfants qui ont 7 ans ne sont pas capables de comprendre ça, mais c'est ma petite fille, alors elle est plus intelligente que les autres, puis plus belle que les autres. Alors, elle comprend, elle. Puis, j'ai dit, écoutez, là, moi, je ne peux pas toujours être avec toi, mais Dieu est toujours avec toi, par exemple. Même si je devais partir, Dieu sera toujours avec toi. Puis c'est ça la leçon ici. Vous savez que beaucoup de religions promettent le paradis. Toutes sortes de fins paradis. Le paradis, c'est la consolation pour la souffrance, pour la vie que tu n'as jamais eue et pour les espérances manquées. Puis quand notre vie est remplie d'espérances manquées et quand notre vie est remplie de souffrance. Puis, ouais. Mais la Bible promet autre chose que le paradis. Hein? La Bible promet la restauration. Qu'est-ce que cela nous dit concernant le mal et la souffrance? Moi, je dis que cela sera comme se réveiller d'un cauchemar. Lisez dernièrement un livre écrit par un homme qui était dans la maison avec son épouse. Son épouse était couchée avec lui dans le lit. Ses petits-enfants étaient autour de lui dans d'autres chambres, ses enfants. Puis, il a eu un cauchemar dans lequel toute sa famille a été tuée dans un accident d'auto. Puis, des fois, ces cauchemars-là sont terribles. Ça nous terrorise. Il s'est réveillé dans une sueur terrible, dans une angoisse profonde. Puis, regarde, son épouse était couchée à côté de lui. Puis, il écoutait, puis elle respirait. Puis là, il est allé faire toutes les chambres pour voir ses enfants, puis tous les enfants étaient corrects. Puis là, il s'est réveillé, puis il a vu que c'était pas vrai, c'était juste un rêve. Puis il dit ceci. Il dit, il me semble que je les appréciais plus que je les appréciais avant d'avoir le cauchemar. que je réalisais combien qu'ils étaient précieux pour moi, que je les avais pris pour acquis, mais là, oh, ils sont là. Hein? Et la résurrection, ça sert comme ça, réveiller d'un cauchemar. La résurrection implique que tout ce qui est triste ne fera plus partie de la réalité. Au moment de la résurrection, la vie qu'on désirait deviendra vraie et la souffrance sera comme un rêve. Lors de la résurrection, non seulement nous verrons la souffrance défaite, mais la souffrance rendra la gloire encore plus grande. Notre souffrance, on l'a lu dans 2 Corinthiens, rendra notre gloire plus grande. Donc la résurrection, ce n'est pas juste la défaite de la souffrance, c'est une défaite complète et radicale. Non seulement réconfort et consolation et compensation, mais d'une façon qu'on ne peut pas comprendre, la souffrance et le mal seront partie intégrale et augmenteraient la gloire que nous avons. La gloire à venir sera encore plus grande à cause du mal et des souffrances que nous aurons vécues. Si C.S. Lewis explique bien cela à quelques reprises dans ses livres, et dans son livre « Le Grand Divorce », qui est disponible en français, il dit ceci. « On nous dit qu'aucun bonheur futur ne pourra compenser pour la souffrance. » Et cela n'est pas vrai, nous dit Lewis. C'est pas vrai, ça. La résurrection et la vie éternelle, une fois atteintes, feront leur œuvre en transformant le passé de sorte que toute notre agonie sera changée en gloire. Oh, j'ai hâte à ce moment-là. Je vais vous donner une longue citation d'un auteur russe, Dostoïevski, je pense qu'on prononce son nom. C'est un homme mystérieux pour moi, russe, orthodoxe, dévoué. J'espère que je vais le voir au ciel un jour. Il a écrit plusieurs livres. Certainement, il avait une vision de la vie chrétienne et de la vérité extraordinaire révélée dans certains de ses romans. Il fait dire ça par une des caractères dans un de ses livres. Il dit, « Je crois, comme un enfant, que la souffrance sera guérie et compensée, et que toute l'absurdité humiliante des contradictions humaines disparaîtra comme un mirage pitoyable. Et à la fin du monde, au moment de l'éternelle harmonie, quelque chose de tellement précieux se produira qui sera suffisant pour tous les cœurs, pour réconforter tous les ressentiments, pour expier les crimes de l'humanité qu'on aura subis, pour tout le sang qui a coulé, et qu'il sera possible non seulement de pardonner, mais de justifier puis de comprendre tout ce qui s'est passé. » J'ai hâte de cela. Job a compris, parce qu'il le dit dans un chapitre un peu plus loin, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera des derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai. » Et il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Vous savez qu'on souffre. Et j'aimerais vous donner un mot de témoignage. Un des Une des souffrances, c'est le couple, c'est la stérilité. On se disait à la table aujourd'hui que c'est de plus en plus commun, la stérilité chez le couple. Et mon épouse et moi, après 5 ans, le médecin a dit, « Oublie ça, vous n'aurez pas d'enfant, vous. » Et moi qui viens d'une famille de 10 enfants, c'était un coup dur. Puis savez-vous qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça? C'est toujours ce qu'on dit, hein? Et le Seigneur était bon pour nous. Nous avons reçu 2 enfants, un enfant qu'on a adopté. On a adopté une jeune fille qui est restée chez nous, puis c'est notre fille. Légalement, on n'a pas pu l'adopter, mais pour nous, ce n'est pas différent. Et nous avons reçu chez nous plusieurs familles d'accueil. Et toujours dans mon cœur, pourquoi? Et mon épouse est plus spirituelle que moi, mais dans son cœur de cœur et dans le cœur d'une femme, les femmes ici peuvent comprendre, c'était quelque chose qui le brisait quand même. 25 ans plus tard, la sœur de mon épouse, qui a 2 grands-fils, puis quand je dis grands-fils, c'est le basket américain, là, mais c'est ça, là. Dans une période d'un an, ils sont devenus aveugles. Complètement aveugles. Avec une maladie dont je ne connais pas le nom en français, mais la rétine se détruit, il n'y a aucune solution aujourd'hui. C'est une maladie génétique. Le médecin a demandé d'avoir des échantillons des prises de sang pour chaque membre de la famille. Il a analysé. Il analyse toute la génétique de la famille pour 3 générations. Puis, il a demandé à ma belle-sœur, « As-tu une sœur? » Elle a dit, « Oui, mon épouse. » Puis, « Est-ce qu'elle a des enfants? » « Oui, oh non, mais ils sont adoptés. » Le médecin dit, « Bien, s'il avait eu des fils, ils auraient été aveugles aussi. » Puis, je ne sais pas comment vous le dire. Les 2 fils de ma belle-fille, c'est des garçons extraordinaires qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Mais quelle angoisse pour ma belle-fille. Et le Seigneur nous a donné 2 enfants en splendide santé. Et est-ce que je peux dire comme ceci, j'aime mieux la souffrance que nous avons eue de stérilité que les souffrances de ma belle-sœur, qui a 60 ans, mon beau-frère a 63 ans. Ils ont 2 fils dans les presque trentaines qui sont aveugles. Puis ils se posent la question, comment ils vont vivre ces garçons-là quand nous allons être partis? Hein? Vous me suivez là? Hein? Alors, le Seigneur a ouvert une porte pour moi. Souvent, on ne comprend pas notre souffrance, on ne comprend pas les voies de Dieu lorsque cela nous arrive. Puis comme je dis, la plupart des fois, je pense souvent, on ne saura jamais les raisons pourquoi on a souffert. Mais le Seigneur a ouvert une porte pour moi. Il m'a fait comprendre. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il savait qu'est-ce qu'il faisait. Et alors voilà. Conclusion. Est-ce que c'est possible tout ça? Est-ce que c'est vrai tout ça? Et oui, puis je vais vous dire pourquoi. Job a dit, tu me parleras du tombeau. Tu me désireras, puis quand tu vas m'appeler Dieu, je vais répondre. Je vais répondre. Et 20 siècles plus tard, 2000 ans plus tard, Jésus désirait son ami Lazare. Vous connaissez l'histoire. Jésus, qui est au loin, il entend que son ami Lazare, puis c'était son ami, puis les sœurs de Lazare, c'était ses amis, ses proches amis. Puis il arrive devant la tombe, puis Jésus pleure. Puis les théologiens peuvent discuter très longtemps pourquoi Jésus pleurait. Puis certains vont dire Jésus n'a pas pleuré à cause des émotions, il a pleuré à cause de l'incrédulité des Juifs. Puis je dirais que quand je pleure, il y a toujours plusieurs raisons quand je pleure. Et quand ma femme pleure, c'est toujours encore plus compliqué que ça. Il y a toujours 25 000 raisons quand ma femme pleure. Puis je les comprends jamais. C'est pas grave. Mais quand Jésus a pleuré, il y avait plusieurs raisons, mais je ne peux pas croire qu'il n'a pas pleuré en compassion et en amour pour son ami Lazare. Puis Jésus s'est mis devant la tombe, Puis il a désiré son ami, puis il a crié, « Lazare, sors !» Puis Lazare l'a entendu, puis il est sorti. Puis si vous lisez Jean chapitre 11 avec un peu de tension, vous allez réaliser que Jésus savait que s'il ressuscitait Lazare, qu'on allait le tuer. La décision ultime et finale des pharisiens de tuer Jésus, selon Jean 11, est arrivée au moment qu'il a tué Lazare. C'est là que Caïphe, immédiatement après, a dit « C'est mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. » C'est là qu'il a dit ça. Et Jésus a souffert. Il a fait le dur service. Il est mort, il a souffert pour nous, pour toi et pour moi. Puis Jésus a même perdu la face du Père. L'isolation, le sentiment d'être seul, c'est là le pire de la souffrance peut-être. Puis Jésus a eu ces moments, comment le dire, abandonné de son Père. Puis on le dit avec révérence, puis avec hésitation, mais ce semble être ça qui est enseigné. Mes chers amis, un jour, ils vont nous appeler et la souffrance sera engloutie dans la gloire et la vie éternelle. Voilà, c'était l'espérance de Job. C'est ça qui lui a donné l'espérance. Et nous savons beaucoup plus que Job savait. Job avait cette espérance malgré le peu de révélations qu'il avait de la part de Dieu. Nous avons une plus grande révélation. Nous vivons après la venue de Jésus. Si on passe dans la souffrance, on a moins d'excuses que Job, et voilà notre espérance. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Oui. Et c'est ça qui nous donne notre espérance. Nous allons prier. Ah Seigneur, on tourne vers toi. Puis tu sais qu'on n'aime pas souffrir. Tu sais que tout ce qui est en nous veut éviter la souffrance, on fuit la souffrance. Mais Seigneur, tu sais que lorsqu'on souffre des fois, nous sommes révoltés. Puis on le trouve injuste. Puis on exige des réponses. Nous te remercions pour l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert, qui n'a pas ouvert la bouche, qui était muet comme une brebis. Nous te remercions parce qu'il a souffert pour nous. Que ses souffrances nous donnent une raison de persévérer dans la souffrance. Il y a des personnes ici qui souffrent pour toutes sortes de raisons. On veut intercéder pour ces personnes. On demande qu'ils ressentent vraiment ta présence dans leur vie. On demande que tu te fais connaître à eux de façon spéciale, qu'ils sachent que tu marches avec eux, qu'ils ne se sentent pas seuls. On demande que tu les fais réaliser que même si la souffrance est difficile et pénible, que la souffrance vient dans nos vies par ta permission avec un but. Que la souffrance nous fait grandir, nous fait pousser des racines. Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Cette personne qui souffre ce soir ici, Seigneur, que tu interviennes dans leur cœur pour leur faire comprendre qu'il y a un but, que tu sais qu'est-ce que tu fais, même si on ne le comprend pas. Puis, oh Seigneur, nous vivons dans un monde corrompu, nous vivons dans un décor corrompu, dans un monde brisé par le péché, dans une société brisée par la désobéissance. Puis notre espérance, Seigneur, c'est ton retour. Notre espérance, c'est la résurrection. Puis nous l'oublions. Et nous cherchons nos réponses dans toutes sortes d'endroits différents de cela. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que notre espérance n'est pas quelque chose ici-bas sur la terre. Notre espérance, c'est la résurrection. Bénis-nous, Seigneur, nous demandons au nom de Jésus.